Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale pour le 223e numéro de Mélomanie. Nous avons beaucoup parlé de chant et d'art lyrique lors de nos précédents numéros. Une longue parenthèse durant la période des représentations de Tristan et Isolde à l'Opéra National du Capitole, où plusieurs récitals ont également eu lieu en même temps. Alors que le printemps arrive, la semaine à venir nous offre une rafale de concerts de grand standing, comme vous allez pouvoir le constater tout au long de cette émission. Mais il y a aussi un très beau récital à ne pas manquer au Capitole, qui décidément nous gâte en ce moment. Pour vous présenter toute cette programmation de gala, j'ai le plaisir de retrouver mon ami Robert Pénavert, cofondateur du site Classique Toulouse et chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Robert et moi avons le plaisir de recevoir un invité d'honneur, Thierry Dargoubet, ex-délégué général de l'Orchestre National du Capitole et désormais conseiller artistique des grands interprètes, dont la saison propose deux rendez-vous à quelques jours d'intervalle, samedi et mardi prochain. Nous allons vous en dire plus en seconde partie d'émission. Dans l'immédiat, petit regard dans le rétroviseur avec notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et bien que nous soyons déjà revenus la semaine passée sur la récente production de Tristan et Isolde à l'Opéra National du Capitole, nous allons en parler encore une fois aujourd'hui parce que la dernière a été donnée dans des conditions pour le moins particulières. Elle s'est tenue le mardi 7 mars, jour de la grande mobilisation sociale contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, et ça n'a pas été sans conséquence sur le déroulement de la soirée, Robert, même si cette ultime séance a bien pu avoir lieu.
Voilà, alors effectivement, à ce 7 mars, nous tremblions un peu pour savoir quel allait être le devenir de la dernière représentation de ce magnifique Tristan. Effectivement, nous n'avons pas été déçus en matière de surprise. Alors, Christophe Gristy avait fait placarder sur à l'intérieur et à l'extérieur du théâtre du Capitole des petites affichettes indiquant que le spectacle ne serait pas donné en entier, que la mise en scène ne serait pas totale, même si les chanteurs seraient en costume, et qu'il y avait peut-être malheureusement des chances que cet opéra soit accompagné au piano. Alors donc, 18h, donc c'était 18h, le début du spectacle, nous entrons dans la salle et grande joie, les musiciens étaient dans la fosse en train de chauffer leurs instruments et leurs doigts et leur souffle, etc. Mais bon, on voyait bien que même s'ils étaient nombreux, quand même il manquait quelques pupitres. Et puis à 18h, le couperet est tombé, tout d'un coup ils se sont tous arrêtés, se sont levés et ils sont partis. Ils ont quitté la fosse. Arrive sur la scène Christophe Gristy, directeur artistique du Capitole, et Claire Roseau de Melun, qui est administratrice générale du théâtre et de l'orchestre. Et ils nous ont annoncé que malheureusement, il manquait trop de pupitres, on va dire essentiels, à la tenue orchestrale de cette représentation, et que donc il fallait bien sûr se résigner à ce que ce spectacle soit accompagné au piano. Donc, ensuite, Claire Rosereau a bien précisé que pour les personnes qui souhaitaient se faire rembourser, un guichet était ouvert d'ores et déjà dans le hall du théâtre et accueillerait les personnes qui souhaiteraient, et c'est compréhensible, se faire rembourser. Bon, une fois qu'un certain nombre de personnes se sont levées et sont parties, donc on a monté la fosse de l'orchestre à peu près un mètre en dessous de la scène. Et puis ils ont monté ensuite un piano, le piano de répétition. Puis ensuite ils ont amené une chaise pour Frank Berman, le chef d'orchestre. Et puis c'est Miles Clary-Fox qui était chargé des études musicales sur ce spectacle, donc on connaît évidemment très très bien la partition, qui allait être chargé d'accompagner, sous la direction de Frank Berman, d'accompagner les chanteurs. Tous étaient là, bien sûr. Alors, et vous savez, comme les embêtements marchent toujours...
En escadrille.
En escadrille, voilà. Et Christophe, Christy, a été obligé, en plus, de nous faire une annonce concernant l'état de santé de Mathias Goerne, mais qui allait, malgré tout, il tenait absolument, par empathie, par professionnalisme et par amitié par rapport à ses collègues, à assurer le spectacle. Et honnêtement, ça ne s'est pas entendu qu'il était malade. Franchement, il a été toujours aussi extraordinaire. Voilà. Donc, le spectacle a eu lieu dans ces conditions-là. Moi, je tiens à saluer, mais bien, bien bas, parce que dans des conditions pareilles, monter un Tristan dans lequel il devait manquer entre trois quarts d'heure et une heure. Donc, il fallait faire des raccords très, très vite. Je fais quoi? Tu fais quoi? Tu arrives quand? Je sors quand? Enfin, etc. C'est quand même une œuvre très, très difficile à chanter. Donc, bravo à l'équipe de direction de l'Opéra National du Capitole. Bravo aux interprètes qui quand même se sont présentés sur scène, se sont maquillés, se sont costumés, et pour nous donner à peu près les deux tiers de l'œuvre. Alors, ce qui m'intéressait, tout le monde a été extraordinaire, évidemment, mais ce qui m'intéressait en particulier, c'est de réentendre Nikolaï Choukov, l'interprète de Tristan, parce que pour avoir discuté avec lui, alors bien sûr, pendant les deux premières représentations, il n'a pas fait faire d'annonce alors que nous savions, enfin, un certain nombre, à savoir qu'il n'était pas très bien. Il avait des problèmes liés au virus de l'hiver, et tout simplement, mais il avait tenu à être là. Donc, il s'était cramponné et il est arrivé au bout, mais comme lui-même me l'avait dit, il m'a dit, bon, franchement, j'étais pas en forme, quoi. Donc, je voulais à tout prix entendre ce qu'il allait faire une fois guéri. Et effectivement, ça valait le coup de revenir, parce que bon, là, on a entendu un très, très grand Tristan. Et rien que pour ça, vraiment, chapeau, les artistes.
Oui, mais on pourrait dire qu'ils ont sauvé les meubles, mais un peu plus tout de même, parce que ça valait vraiment le coup d'être écouté, même dans ces conditions.
Grande ovation du public, debout, qui a acclamé quand même l'engagement de tous ces chanteurs.
Nous allons écouter une dernière fois un extrait de Tristan et Isolde lors de la récente production au Capitole. C'est le grand baryton allemand Mathias Goerne que Robert a cité, qui interprétait le rôle du roi Marc. Il chante ici « Tatis dos wirklich », air de l'acte 2 du célèbre opéra de Richard Wagner.
Spielt,
Das ist das wirklich, air du roi Marc dans Tristan et Isolde, chanté par Mathias Görn. C'est terminé pour cette courte première partie d'émission. Petite virgule musicale avant de retrouver Robert Pénavert et Thierry Dargoubet, notre invité d'honneur pour la partie agenda de ce numéro. Vous allez voir, elle va être bien plus consistante. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, toujours en compagnie de Robert Pénavert et avec Thierry Dargoubet, conseiller artistique de la saison des grands interprètes. Robert, puisque vous êtes bien lancé, nous allons poursuivre dans le domaine du chant en restant à l'Opéra National du Capitole où se produit en récital lundi 20 mars à 20h l'un de nos plus grands chanteurs, le baryton Stéphane Degout. Stéphane Degout dont nous gardons le souvenir ébloui de son vote sec au même endroit la saison dernière.
Alors oui, alors Eric, vous l'appelez le plus grand chanteur, moi je
l'un
dirais,
de nos plus grands chanteurs.
Je dirais, d'accord, mais je dirais plutôt que c'est notre plus grand artiste lyrique français actuel. Voilà, dans
sa... C'est plus qu'un chanteur, je suis d'accord avec vous.
C'est bien plus
qu'un chanteur. Et son vote sec l'a prouvé,
voilà,
largement.
Largement. Et souvenons-nous également de son interprétation de Thésée dans Hippolyte et Aricie de Rameau, en mars 2009, au Théâtre du Capitole. Il avait 34 ans à cette époque-là. Et je pense que c'était la première fois qu'il venait dans une production lyrique. Voilà. Dans tous les cas, le retour sur la scène de l'Opéra National du Capitole d'un chanteur tel que Stéphane Degout est toujours un grand événement qu'il convient de saluer. Donc, il vient dans un répertoire que finalement, quand on regarde bien son emploi du temps aujourd'hui, il est en train de privilégier parce qu'en fait, il chante de moins en moins l'opéra. Il le chante, bien sûr. Il vient de faire un superbe Eugène Onegin à la Monnaie de Bruxelles. Il chante, mais il ne fait pas que ça, et même il ne fait pas surtout que ça. Je pense que plus des deux tiers de son emploi du temps sont occupés par le récital. Et sur les plus grandes scènes du monde, nous ne trompons pas, la preuve, il va donner un récital à l'Opéra National du Capitole. Alors donc, il sera accompagné pour cette occasion par le pianiste Tanguy de Villancourt. Et il a un programme qui est d'une richesse absolument incroyable. Alors d'abord, il a convoqué les deux compositeurs qui, à mon avis, sont les maîtres absolus, un du lead, l'autre de la mélodie, tout en sachant que ça veut dire la même chose, bien sûr, dont Franz Schubert, évidemment, pour le lead, et Gabriel Fauré pour la mélodie. Mais pas que. Le programme va débuter avec 6 mélodies de Franz Schubert. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il a choisi des mélodies. Alors tout le monde le sait, malheureusement, Franz Schubert est mort très jeune. Hein. Il est mort, je pense qu'il avait 31 ans. Et donc, Stéphane Degout a choisi des mélodies qui s'échelonnent depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 28 ans. Et ce qui nous permet de voir l'évolution musicale de ce compositeur. Alors, il y a des mélodies qui sont très, très connues. Lamentation du berger, d'ailleurs, c'est la première. Il avait 17 ans, à peine. Et puis ensuite, la dernière, évidemment, d'Herr Wanderer, qui est beaucoup, beaucoup plus connue. Mais il faut dire que ce ne sera pas la dernière. Pardon, je me trompe. C'est Nuit et rêve. Nacht und Traume. Voilà, il avait 28 ans. Et elle compte, non pas parmi ses dernières, mais ses toutes dernières mélodies, ses derniers leaders. Donc, première partie du programme somptueuse et qui va continuer sur le même niveau, donc avec un premier cycle de Gabriel Fauré sur des textes de René de Brimont, une dame, et qui s'appelle Mirage. Donc, ce sont 4 textes que Gabriel Fauré a mis en musique de 1800, composé en 1919, pardon, 1914.
C'est le Fauré
Gabriel
de la Fauré, fin.
Ça aurait été un peu bizarre. Voilà. En 1919, donc, alors pour la petite histoire, mais vraiment pour la petite histoire, hein, la créatrice de ce cycle était une dame, une jeune dame, Madeleine Gray, qui avait à peine 23 ans, mais nous le savons tous, à cette époque-là, 1919, hein, Gabriel Fauré était déjà passablement atteint de surdité. Quand je dis passablement, il était pas mal.
Ce qui était terrible, je crois, c'est qu'il entendait faux, en fait.
Il n'était pas
complètement sourd, mais il entendait faux. C'est-à-dire qu'il entendait, je dis n'importe quoi, on lui joint un dos, il entendait un si, vous voyez, c'était
voilà.
Ça. Donc
c'était un peu dur.
Évidemment, très handicapant.
Mais par contre, il y avait quelque chose qui ne le trompait pas, c'était la métrique.
Ah ça.
Alors, donc, cette pauvre Madeleine Gray, dans ses souvenirs, nous dit que lorsqu'elle a créé ce cycle, elle chantait, mais enfin, un chanteur, ce n'est pas un instrument. Parfois, il y a des problèmes de respiration, de prise de respiration. Ils ne sont pas tout à fait à la milliseconde près sur la métrique du pianiste. Or, Gabriel Fauré ne l'entendait pas. Donc, lui continuait à jouer et Madeleine Gray était obligée de courir un peu après pour essayer de se retrouver. Ça, c'était pour la petite histoire. Voilà. Donc, ce cycle Mirage termine la première partie parce que, vu la richesse de ce spectacle,
il y
a un entracte, ce qui est bien compréhensible. Donc, deuxième partie, c'est Gabriel Fauré également qui nous revient avec les poèmes d'un jour. Alors, c'est l'opus 21. Alors, l'opus 21 de ce compositeur que nous aimons bien dire Éric Apaméen.
Ah, il est vraiment de chez nous, hein, Gabriel Fauré.
Il ne peut pas être plus de chez nous. Donc, cette fois, ses poèmes d'un jour ont été écrits. Il était beaucoup plus jeune et il avait 33 ans, en 1878. Alors, c'est une brève histoire d'amour en trois mouvements qui veulent bien dire bien des choses, et puisque c'est rencontre, toujours. Et puis, adieu.
Adieu.
C'est l'éternel.
On en tirera les conclusions qu'on veut.
voilà, donc, absolument. Alors, c'est un cycle qui n'a pas rencontré un grand engouement, non seulement des chanteurs, mais également de la critique officielle, disons, des musiciens de son temps. Alors, bon, je ne comprends pas trop pourquoi, mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est qu'on peut faire confiance à Stéphane Degout pour nous prouver tout le contraire, évidemment, et de nous intéresser fortement à ce cycle qui, évidemment, c'est moins connu que l'horizon chimérique ou des choses comme ça, bien évidemment. Mais ça vaut le coup, à mon avis, de
bah justement, oui, c'est un Fauré beaucoup moins connu, donc c'est pour ça, je pense, enfin, c'est un des intérêts de ce programme et de ce récital.
Voilà. Ensuite, nous connaissons la curiosité et le talent de Stéphane Degout pour aller emprunter des chemins de traverse. Et pour Stéphane Degout, dans ce récital, il va nous amener dans la seconde école de Vienne avec des leaders de...
Alban Berg.
Alors, donc, ces leaders...
C'est
l'opus 2, les Wirkzang. Donc, il y a quatre leaders, alors évidemment, où on parle toujours de sommeil, de mort, etc. On est un peu dans le Sturmungrang de allemand. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être intéressant. Alors c'est d'autant plus intéressant, et là on retrouve bien la patte d'un artiste qui n'a pas fait simplement un programme, blablabla. Non, il veut dire quelque chose, ce programme. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Quand Alban Berg a composé, en 1910, ce cycle, eh bien, il était encore l'élève de Schoenberg. Et en fait, ce cycle montre le moment où Alban Berg va être touché par l'atonalisme. Donc ça, c'est un moment clé, alors non seulement dans l'œuvre de Berg, mais également, évidemment,
dans l'histoire de la musique,
l'histoire de la musique occidentale en particulier. Donc, encore un moment passionnant pour cette soirée. Voilà. Et puis, on va terminer de manière, on va dire, un peu plus classique, mais non moins intéressante, avec Maurice Ravel et deux mélodies hébraïques. Vous savez, c'est Kaddish et l'énigme éternelle. Ces mélodies qui sont dans la lignée des cinq mélodies populaires grecques. Et on termine avec Claude Debussy. Alors, il y a d'abord les trois chansons de France, appelées ainsi. En fait, il n'en donnera que deux. Pourquoi? Parce que après les trois chansons de France, il y a le Promenoir des deux amants qui est très connu. Or, en fait, dans le Promenoir des deux amants, il y a la deuxième des chansons de France qui a été incluse. C'est la première, d'ailleurs, du Promenoir des deux amants. Alors, simplement, moi, je pense à l'examen du programme. Il a voulu garder dans les trois chansons de France, dont il ne chantera que deux morceaux, les textes écrits par Charles Duc d'Orléans, puisque donc, auprès de cette grotte sombre est une œuvre de Tristan l'Hermite. Et c'est Tristan l'Hermite qui occupe tous les textes, qui est l'écrivain de tous les textes du Promenoir des deux amants. Donc, auprès de cette grotte sombre, crois mon conseil, chère Climène, et je tremble en voyant ton visage. Voilà. Donc, c'est vraiment un programme extraordinaire. Vraiment.
Oui, très riche, très varié, qui nous amène à Vienne. Et puis en France, et encore à Vienne, et on retourne en France pour vous en donner un aperçu de ce programme que donne Stéphane Degout lundi prochain à l'Opéra National du Capitole. Je propose de vous faire écouter son interprétation de Kaddish, la première des deux mélodies hébraïques de Maurice Ravel.
«
Kaddish, première des deux superbes mélodies hébraïques de Maurice Ravel, chantée par Stéphane Degout, accompagnée ici par le pianiste Cédric Tiberghien, mais c'est Tanguy de Villancourt qui sera au piano aux côtés du baryton lors du récital qu'ils donnent ensemble, lundi 20 mars à 20h à l'Opéra National du Capitole. Avant cela, vendredi 17 mars à 20h également à la Halle aux Grains, il y a un concert de l'Orchestre National du Capitole, très attendu et je pense qu'on avait tous coché dans la programmation 2023 cette date. C'est un concert qui est sous-titré un trio toulousain. Ce trio réunit le chef d'orchestre Pierre Bleuze, le compositeur Benjamin Attahir et le guitariste Thibaut Garcia. Ils sont tous nés à Toulouse ou à côté. Ils ont été formés tous les trois au conservatoire rayonnement régional de la Ville Rose. Et c'est vous, Thierry Dargoubet, qui les avez réunis pour cette soirée, puisque, si je ne me trompe pas, vous étiez encore délégué général de l'Orchestre National du Capitole quand le programme de la saison 2022-2023 a été conçu.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste Offrat, mon successeur, a eu la gentillesse de souligner lors d'une dernière conférence de presse que, effectivement, c'était moi-même qui avait œuvré à cette programmation. Et donc, c'est un concert que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience, parce que c'est trois artistes, trois musiciens absolument formidables, qui font que Toulouse est une ville renommée pour la qualité de ce qu'elle produit en musique. Donc je pense évidemment à Pierre Bleuze, qui avait commencé plus en tant que violoniste avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, et maintenant qui fait une carrière magnifique, magnifique d'autant plus qu'il a pris les commandes de l'ensemble intercontemporain, dont je suis certain, c'est qu'il ira encore beaucoup plus loin. Évidemment, notre guitariste préféré, Thibaut Garcia, que nous adorons, et puis Benjamin Attahir, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à, je dirais, au propos de Pierre Boulez, que j'avais rencontré il y a une dizaine d'années, qui m'a dit « Ce garçon, il est formidable ».
Mais je crois que c'était son dernier élève, d'ailleurs. C'était, ou un des derniers élèves de Boulez, en tout cas.
Ça a été un des derniers élèves, qu'il a fait des masterclass à Lucerne. Et puis Benjamin, voilà, a commencé avec un concerto pour hautbois, magnifique. Et donc, c'est la sixième ou septième œuvre qu'il va créer
à Toulouse, ouais.
Pour Toulouse, pour l'Orchestre du Capitole. Donc, évidemment, je suis très, très, très heureux.
Et là, ce sera pour la première fois un concerto pour guitare. Je pense que c'est le premier qui compose. Avec toujours ces titres assez énigmatiques s'agissant de Benjamin Attahir. Là, le sous-titre, c'est Elbir, avec deux I. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé ce que ça voulait dire. Il n'y a que lui qui pourra s'expliquer là-dessus.
Oui, je pense. C'est toujours, comme vous le dites, tout à fait énigmatique. Mais je crois qu'au-delà de ces titres, ce qu'il faut voir, c'est la profondeur de sa musique, c'est la prégnance, l'idée, le dynamisme, les couleurs. Non, c'est un garçon vraiment exceptionnel et on a beaucoup de chance que l'Orchestre du Capitole puisse encore créer certaines de ses œuvres. Et j'espère que ça continuera.
Alors, petite curiosité de ma part, je me demandais si cette création, donc avec Thibaut Garcia en soliste, est-ce que c'est Thibaut qui en a parlé à Benjamin Attahir? Est-ce qu'ils se connaissaient déjà? Est-ce que vous avez fait un peu l'intermédiaire pour que cette commande puisse se faire avec la création Il y a Toulouse?
Vous savez, dans nos métiers, quand vous aimez les artistes, quand vous aimez ces grands musiciens, au fond, vous portez un message. C'est vrai que je sais que, par exemple, c'est moi-même qui avais dit à Renaud Capuçon, voilà, on a un compositeur formidable à Toulouse, et donc il a tout de suite commandé à Benjamin Attahir son concerto pour violon qui a été créé par Daniel Barenboim à Berlin, et puis maintenant, il y a une quinzaine de jours, au Philharmonique de Radio France à Paris. Et là, je ne me rappelle plus très bien comment c'est passé, mais c'est tellement naturel. Après, l'idée, c'est que le compositeur et l'artiste qui va créer la pièce puissent se parler, puissent évoquer. Et donc voilà, j'ai évidemment participé à cette rencontre.
Et on est tous très impatients, évidemment, de la découvrir vendredi à la Lohengrin. Alors, il y a deux autres œuvres, évidemment, au programme. Il n'y a pas que ce concerto pour guitare de Benjamin Thayer. Deux œuvres de César Franck, Le Chasseur Maudit et sa symphonie en ré mineur. César Franck, on a fêté l'année dernière les 200 ans de sa naissance. Donc, on est un peu dans le prolongement de cet anniversaire. Mais c'est un compositeur qui est cher, je crois, tout de même à l'Orchestre National du Capitole, notamment depuis Michel Plasson, qui a beaucoup défendu la musique française.
Et j'ajouterai aussi, bien sûr, ce grand ambassadeur de la musique française et qui a créé l'orchestre et porté l'orchestre au plus haut niveau, mais cette symphonie en ré mineur, moi je dois dire, j'y suis particulièrement sensible parce que c'est cette symphonie qui a permis à Tougan Tsokhiev d'être validé par les musiciens en décembre 2004, donc la symphonie en ré mineur. Ouais. Dirigé par un jeune russe, et c'était formidable. C'est effectivement, à partir de ce moment-là, voilà, Tougan Tsokhiev étant capable de diriger de la musique française, capable de diriger le répertoire de l'orchestre et porté par Michel Plasson. Voilà.
Oui, voilà, donc il y a une histoire très forte donc, autour de cette symphonie en ré mineur de César Franck et autour des œuvres de César Franck en général avec l'Orchestre National du Capitole. Évidemment, je n'ai pas d'extrait du concerto pour guitare Elbir de Benjamin Thayer à vous faire écouter puisque l'œuvre n'a pas encore été créée, mais je vais vous proposer en revanche un extrait du poème symphonique de César Franck, Le Chasseur Maudit, et c'est une version de l'Orchestre National du Capitole dirigée par Michel Plasson. Le Chasseur Maudit, interprété par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Michel Plasson. Un extrait d'un CD paru en 1995 sous le label Warner Classic. Et c'est une des œuvres au programme du concert que donne l'Ensemble Symphonique Toulousain vendredi prochain, le 17 mars, à la Halle au Grain, bien sûr, sous la direction de Pierre Bleuze, soirée durant laquelle Thibaut Garcia va créer le concerto pour guitare Elbir de Benjamin Attahir. J'ai indiqué en début d'émission que vous êtes désormais conseiller artistique des grands interprètes Thierry Dargoubet, et c'est à ce titre que vous êtes notre invité aujourd'hui, puisque les grands interprètes nous proposent deux magnifiques concerts à la Halle au Grain dans les jours qui viennent, samedi le 18 mars à 20h, retour du très prestigieux Wiener Philharmoniker à Toulouse, 23 ans après sa dernière venue. Et pour faire bonne mesure, vous avez invité pour le diriger ce soir-là Tugan Sokiev en personne. Bon, c'est la soirée où il faut être, en espérant qu'il reste encore des places. Est-ce qu'il en reste d'ailleurs ?
Je pense qu'il reste 12-15 places.
Bon, il faut vraiment se précipiter si vous ne voulez pas rater l'occasion. Bon, on va parler d'abord de Tugan Sokiev avant de parler du Wiener, comme on dit. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Quelles sont ses activités ?
Bien, Tugan Sokiev, depuis sa double émission du 2 mars 2022, a une activité de chef invité, et je dois dire qu'il est très heureux. Et depuis cet événement, enfin tragique, parce qu'une double émission, c'est quand même très compliqué à assumer, Tugan Sokiev a, de mon point de vue, acquis une maturité musicale différente, une maturité, oui, franchement, qui lui permet de voir la musique avec un regard un peu différent. Donc voilà, il est très heureux, il dirige les plus grands orchestres du monde, que ce soit Berlin, Vienne, Londres, Philharmonia, New York Philharmonique, Philadelphia, enfin je ne vais pas vous lister les 15 plus grands orchestres du monde, en fait voilà, il les dirige. Donc ce qui lui manque, je pense, c'est un projet un peu différent. Donc il a été très sensible à ce que l'académie de direction d'orchestre qu'il avait montée à Toulouse soit supprimé. Et donc je sais qu'il va œuvrer, enfin, d'ailleurs on travaille ensemble à cet égard, pour qu'il puisse œuvrer dans le domaine de la transmission.
Transmission et de la formation.
Et de la formation, ça c'est très important.
Et puis son histoire avec le Wiener Philharmoniker ne date pas d'il y a quelques semaines, ni quelques mois, ni même quelques années, elle est déjà ancienne hein, puisqu'elle date de 2009.
Elle date de 2009 et j'ai eu la chance d'assister au premier concert d'abonnement de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, du Wiener Philharmoniker avec Tugan Sokiev, c'est la quatrième de Brahms. Et pour moi, ça a été un choc considérable. Et je veux dire qu'à l'issue du concert, j'étais dans l'incapacité de me lever du banc du Musikverein, alors que quelques personnes autour de Tugan me disaient « Ah, il y a l'ambassadeur de France qui veut vous voir, il faut absolument... » Je ne pouvais pas. C'était un choc immense. Et j'ai compris à partir de ce moment-là que la rencontre fusionnelle d'un orchestre incroyable avec ce chef incroyable pouvait donner des choses miraculeuses.
Et c'est là que vous vous êtes dit, il faut faire revenir le Wiener à Toulouse, mais il faut le faire venir avec Tugan à sa tête.
Alors, pour être honnête, non, parce que l'idée à ce moment-là était j'étais délégué général de l'orchestre, et pour moi, la priorité des priorités, c'était évidemment le développement de l'orchestre du Capitole, auquel je me suis livré corps et âme avec Tugan. Et puis voilà, quand Tugan est parti, immédiatement j'ai réagi, je l'ai suivi, donc dans ses orchestres à Berlin, à Dresde et à Vienne. Et puis c'est le hasard des rencontres avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, que je connaissais certaines personnes, et tout à fait par hasard et un peu au culot, j'ai dit « Ah, mais pourquoi on n'imaginerait pas quelque chose avec Tugan l'année prochaine ?» Et c'était possible. Voilà, c'est le miracle des rencontres, de la vie. Et donc, évidemment, c'est pour nous, pour toute l'association des grands interprètes, un bonheur total.
Ce sera la quatrième venue, en fait, hein, du Wiener à Toulouse. La première a lieu en 1992, donc il y a un peu plus de 30 ans.
Voilà, avec Zubin Mehta, c'était le 3 mai de 1992, c'était la septième de Bruckner. Ça, c'est un moment pour nous, enfin pour moi, quasi historique aussi. 3 ans plus tard, la huitième de Bruckner avec Bernard Haitink, et puis la quatrième de Brahms avec Seiji Ozawa.
Ça, c'était en 2000, donc c'était voilà. La dernière venue. Donc il y a 23 ans, presque 23 ans, jour pour jour, c'est en avril, je crois.
Voilà. Et donc avec les musiciens de Vienne, on va tenter d'établir des nouvelles relations. Après, c'est des projets compliqués à porter.
Ils sont très demandés, évidemment.
Ils sont très demandés, le modèle économique est quand même très compliqué aussi. Mais je pense que pour les Toulousains, pour les mélomanes de la région, c'est important aussi qu'on fasse des efforts.
Pourquoi c'est un orchestre d'exception, le Wiener Philharmoniker, pour vous ? C'est quoi ? C'est un son unique ?
Alors, c'est une organisation unique, qui est née il y a quasiment 200 ans. C'est une démocratie musicale absolument incroyable, puisque ce sont les musiciens eux-mêmes qui organisent les concerts, qui planifie, qui invite les chefs d'orchestre, il n'y a pas de directeur musical, et en même temps, c'est un orchestre de fosse, c'est l'orchestre du Wiener Staatsoper. Et d'ailleurs, avec Tougan, c'était finalement notre orchestre rêvé, c'était notre référence absolue. Et donc, cette organisation fait que, aujourd'hui, c'est une tradition unique, avec un son qui fait penser à la soie, c'est vraiment quelque chose de tout à fait unique. Avec une personnalité folle.
Je pense que le terme, c'est ça, c'est que c'est un orchestre qui a une personnalité unique et qu'on reconnaît aussi et qui est reconnu grâce à ça. Ils vont venir avec un programme russe. Alors ça, je ne sais pas si c'est un hasard, un programme russe dirigé par Tougan Sokiev. Qui l'a décidé d'ailleurs, ce programme?
Alors,
c'est lui ou
c'est venu naturellement. Ce sont les musiciens, enfin la direction de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, Tougan et moi-même. C'était une évidence. Et donc, c'était Tchaïkovski, c'était Rimsky-Korsakov, qui l'a déjà dirigé d'ailleurs.
Scheherazade, donc ce sera concernant Rimsky-Korsakov, c'est Scheherazade qui va être donné, qui va ouvrir le concert,
voilà.
Qui a été donné, je pense, à de très nombreuses reprises avec l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Tougan Sokiev.
Alors ça, c'était notre œuvre emblématique, un peu la carte de visite de l'orchestre à l'étranger, parce que c'est évidemment la musique russe pour Tougan, mais non seulement ça, c'est des couleurs uniques. Donc l'Orchestre du Capitole avait déjà des couleurs avant Tougan Sokiev. C'est un orchestrateur de génie, c'est pour toutes des harmonies absolument incroyables, et pour toutes ces raisons, ça a permis de développer en quelque sorte l'orchestre.
Et puis la seconde œuvre qui sera jouée donc samedi, c'est la quatrième de Tchaïkovski. Est-ce qu'il l'a dirigée si souvent que ça avec le Capitole de Sokiev? En tournée
énormément. Mais c'était l'occasion du premier disque qui est paru chez Naïve il y a maintenant de nombreuses années. Donc c'est une œuvre que Tougan ne voulait plus trop aborder à Toulouse, mais qu'il souhaitait toujours garder au répertoire de tournée. Parce que vous savez, on a tourné des mois entiers dans tous les pays du monde.
Oui, c'était l'œuvre qui était jouée à l'étranger, mais pas à Toulouse. Et bien là, on va pouvoir la réentendre, dirigée par Tougan Sokiev, mais à la tête du Wiener Philharmoniker. Alors, on l'a aussi souvent entendu à la Lohengrin, comme je l'ai dit il y a quelques instants, jouée par l'Orchestre National du Capitole et dirigée par Tougan Sokiev. Voici le début du premier mouvement de Scheherazade de Rimsky-Korsakov dans une version du Wiener Philharmoniker, dirigée ici par André Previn. Scheherazade Rimsky-Korsakov, le premier mouvement dans une version du Wiener Philharmoniker dirigée par Andrei Previn, une des deux œuvres au programme du concert que donne le WPO samedi prochain, le 18 mars à 20h à la Halle au Grain, sous la direction de Tougan Sokiev. Je le redis, il reste quelques places, donc il faut foncer si vous voulez assister à cette soirée. Et puis dès le mardi suivant, le 21 mars, toujours à 20h, nouveau rendez-vous de la saison des grands interprètes avec un duo cette fois-ci qui nous permet de retrouver un autre musicien toulousain parmi les plus renommés et les plus appréciés du public, Bertrand Chamaillou, tout juste auréolé d'une troisième victoire du soliste instrumental de l'année aux récentes victoires de la musique classique. Et le grand pianiste vient avec sa complice de longue date, la violoncelliste helvéto-argentine Saul Gabetta. Là, on a affaire à deux habitués et même à deux amis fidèles de la saison des grands interprètes, Thierry Dergoubet.
Je dirais que nous, on est très heureux parce que c'est deux complices depuis toujours qui viennent gâter le public des grands interprètes. Donc c'est des artistes que nous adorons énormément. Et Bertrand a accompagné également l'Orchestre du Capitole pendant de très nombreuses années en tournée. Donc c'est pour nous une joie incroyable de les retrouver. Puis ces deux artistes d'exception, on les aime. Et puis quand on voit Bertrand Chamaillou qui dit à la télévision, aux Victoires de la Musique, voilà, Toulouse est probablement la ville la plus musicale de France, enfin après Paris, c'est quel bonheur.
Ça, il défend toujours sa ville où qu'il passe, et dans toutes les interviews, je peux vous le confirmer. Alors, vous parliez de leur amitié, mais elle est très ancienne en fait, ils se connaissent depuis l'adolescence tous les deux.
Depuis toujours, c'est deux amis très très chers, et voilà, ils auraient pu être mari et femme, ils ont décidé d'être deux amis pour la vie.
En tout cas, ils forment un couple juste le temps d'un concert, c'est tout voilà. Ce qu'on peut dire, et ça fonctionne évidemment merveilleusement. Peut-être un mot sur Saul Gabetta, Bertrand Chamaillou, on le connaît, mais qui fait une carrière aussi de soliste extraordinaire.
Depuis toujours, alors elle était un peu moins connue en France, mais là maintenant c'est devenu une grande star de son instrument, du violoncelle, même si en France on est extrêmement gâté par les violoncellistes. Hein. Non, ce sera vraiment un plaisir incroyable. De les retrouver.
Ils sont venus déjà, je ne saurais même pas compter le nombre de fois ils sont venus aux grands interprètes, mais c'est peut-être la cinquième ou sixième fois.
On ne compte plus. L'idée, c'est de prendre du bonheur de les retrouver complices sur la scène de la Halle au Grain.
Je pense que c'est un grand bonheur pour eux aussi de venir jouer dans cette ville qu'ils aiment tous les deux. Et ils vont jouer à un programme qui tourne en ce moment. Je crois qu'à l'heure où nous nous parlons, ils sont quelque part en Italie. Ils font une tournée en Italie avec le même programme, un programme allemand. Donc ils vont nous présenter un programme allemand, romantique allemand. Mendelssohn et Brahms.
Voilà. La dernière fois, c'est la sonate de Rachmaninoff. Et là, maintenant, c'est autre chose. Non, c'est important pour eux et puis pour nous de prolonger cette attente. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier.
Donc Mendelssohn, il y aura les variations concertantes et la sonate pour violoncelle et piano numéro 2 en ré majeur. Et concernant Brahms, ce sera la sonate pour violoncelle et piano, numéro 2 également, mais en fa majeur. Voilà, très très beau programme allemand. Je n'ai pas d'extrait de pièces de Mendelssohn ou Brahms jouées par le duo Chamaillou-Gabetta à vous faire écouter. Mais les deux musiciens avaient enregistré il y a quelques années un très joli CD Chopin. En voici un extrait, le Nocturne opus 15, numéro 1. Thank you. un arrangement pour piano et violoncelle du Nocturne opus 15 numéro 1 de Frédéric Chopin, interprété par Bertrand Chamaillot et Sol Gabetta, extrait de leur CD Chopin, enregistré en 2015 sous le label Sony Classical. Alors Thierry Dargoublet, la saison ne va pas s'arrêter là bien sûr. Quels seront les prochains concerts après les deux que nous venons de présenter?
Ben, je parlerai du dernier concert en fait, qui sera porté par une immense mezzo-soprano, Joyce Di Donato. C'est le projet Eden. C'est un projet, c'est une ode à l'écologie. C'est une ode, c'est évidemment très très actuel. Avec Il Pomodoro et accompagné par un garçon que personnellement j'adore, puisqu'il s'agit de Maxime Emelianichev. Donc c'est un concert, je pense, important. Ce sera une prise de conscience. Voilà, la musique, l'écologie, vue par le prisme d'une très grande dame. Et ce ne sera pas un concert classique, parce qu'il y aura des très belles lumières. C'est un projet en fait, qui prend place plutôt dans des grandes capitales internationales, plutôt des opéras, comme le Théâtre Royal, comme le Covent Garden, etc., ou le Metropolitan Opera. Donc on est très heureux et très fiers de pouvoir clôturer la saison ces moments-là. Évidemment, je pense à Maria João Pires, voilà, et son retour.
Voilà.
La première visite...
Ça, c'est en avril.
Voilà, en Maria avril, la première visite de Sir Andrashiv, pianiste immense.
Ah oui.
Pas très connu. J'espère que ce ne sera pas sa dernière visite. Et puis le duo incroyable, Alexandre Kantorov, Daniel Lozakovitch, évidemment.
Ça, c'est en avril aussi.
Et puis j'en oublie, ça, je ne sais plus ce que j'oublie.
Mais il reste encore effectivement de nombreux concerts d'ici la fin de la saison. Les noms que vous avez énumérés, on voit, il n'y a que des grands noms. La saison mérite bien
ce qu'on... Ce sont des interprètes d'excellence, ce sont des immenses interprètes, d'immenses musiciens. Et donc c'est le rôle finalement de l'association de pouvoir offrir au public,
à tous les mélomanes toulousains, pas seulement
mélomanes de la région d'ailleurs. Voilà, ça c'est notre fierté. Et j'espère qu'on pourra continuer un petit peu.
Il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête là. Au contraire, surtout avec des programmations comme celle-ci, parce que le public vous suit tout le temps. La Halle au Grain, en général, rempli ou quasiment rempli pour chacune de vos propositions. Eh bien, c'est la fin de ce numéro. Merci à Robert Pénavert et à vous-même, Thierry Dargoublet, d'en avoir été les invités et d'avoir partagé votre passion avec nos auditeurs. Je rappelle que l'Orchestre National du Capitole est en concert à la Halle au Grain vendredi 17 mars sous la direction de Pierre Bleuze et avec Thibaut Garcia qui va créer le concerto pour guitare composé par Benjamin Tahir, trois Toulousains à l'honneur lors de ce concert qui commence à 20h. Les réservations et l'achat des places sont à faire en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Concernant la saison des grands interprètes, concert du Wiener Philharmoniker dirigé par Tugan Sokiev, ce samedi 18 mars à 20h à la Halle au Grain. Au même endroit, toujours à 20h, le mardi 21 mars, concert du duo Bertrand Chamaillot-Sol Gabetta. Nous venons de vous le présenter. Pour réserver et acheter vos places en ligne, il faut vous connecter au site www.grandsinterprètes.com. Entre-temps, lundi 20 mars à 20h à l'Opéra National du Capitole, récital du baryton Stéphane Degout, accompagné par le pianiste Tanguy de Villancourt. Ils vont donner un programme de Lieder de Schubert et Alban Berg, ainsi que des mélodies de Fauré, Ravel et Debussy. La billetterie est accessible à l'adresse www.theatreducapitole.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro. Le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de votre écoute fidèle chaque mardi et mercredi. Excellente semaine musicale à tous.